savoir.
Bonjour à vous tous, Doé vous raconte toujours et encore des histoires et je vais terminer cette longue série qui nous a mené pendant plusieurs semaines, les contes et légendes du roi Arthur. J'ai sans doute omis de vous dire que ces histoires je les ai tirées d'un livre sorti chez Locus Solus il y a déjà quelques années de Tristan Pichard et de Loïc Tréhin pour les illustrations. Allez, on va terminer par Girflet, la bataille de Camlann. Je me nomme Girflet. En ma jeunesse, j'ai eu l'honneur de servir le roi Arthur comme écuyer et je fus le témoin de sa mort. Si je prends la plume aujourd'hui, c'est pour compter l'échec d'un grand homme, mais aussi son chagrin et ses malheurs. Dans l'encre posée sur le parchemin se mêle le sang de ceux qui sont tombés à la bataille de Camlann et les larmes du vieux chevalier que je suis devenu. Nous avions quitté Camelot avec le gros de l'armée royale, sans doute la plus forte troupe jamais rassemblée par Arthur. En son absence, il laissait la régence à l'arrogant Mordred. Il aimait son neveu comme un père aime son fils. J'ai vu leurs adieux, la collade chaleureuse dont il fit preuve et l'air de dégoût de ce misérable quand son oncle le prit dans ses bras. Simple écuyer, ce n'était pas mon rôle de le mettre en garde contre les hypocrites. De même, j'ai entendu les tendres remerciements du roi à Morgane. Remarquai-je le méchant sourire qu'elle lui décocha une fois qu'il eut tourné le dos ? Bien entendu, une flèche n'aurait pu se montrer plus meurtrière. Mais pouvais-je accuser sa sœur de duplicité ? Moi, un jouvenceau pas même adoubé. Durant le voyage, jusqu'aux terres de Lancelot, je constatais chaque jour la tristesse de mon maître. Son caractère ne cessait de s'assombrir à mesure de notre avancée. Je ne comprenais que trop bien son humeur. Il s'en allait combattre son meilleur vassal, son ami. La trahison était impardonnable et il se murmurait les pires racontars au sein de la troupe. Le sujet en était évidemment la liaison entre le chevalier blanc et la reine Guenièvre. Une fois notre campement établi aux abords du château de la Joyeuse Garde, l'assaut semblait imminent. Pourtant, un voyageur désirait s'entretenir avec Arthur et le début des hostilités fut différé. L'homme, amaigri par de longues pérégrinations, vieilli par de grandes épreuves, se nommait Bohor. Si je pus lire de l'espoir et même de la joie dans l'œil de mon seigneur lors de ses retrouvailles avec ce compagnon disparu depuis bientôt 2 années, cette éclaircie ne dura pas. Après que le visiteur délivra le récit de ses aventures en quête du Saint Graal, le front d'Arthur s'était chargé de lourds nuages. Quand il apprit la mort de Galahad et de Perceval, il baissa ses paupières pour retenir l'orage. Les deux hommes restèrent un long moment silencieux, puis Bohor demanda « Mon roi, est-ce vrai ? Vous allez combattre Lancelot ?»« Pour malheur, il m'a trahi. M'accorderez-vous de ne pas participer à l'assaut ? Lancelot reste mon cousin ?» Je l'ai toujours admiré et respecté. Je ne peux porter l'épée contre lui. Pour tout dire, j'espère ne plus jamais avoir à prendre la vie d'un ennemi, et encore moins d'un ami. Arthur approuva la demande et autorisa le chevalier fatigué à quitter le campement avant la bataille. Après le départ de Bohor, j'aidai le roi à revêtir son armure. Avant de ceindre son fourreau, il contempla Excalibur. Girflet, quand j'ai tiré la lame du rocher, j'avais alors ton âge ? Un gamin, au dire de tous. C'était là un exploit formidable. Pourtant, je n'ai jamais accompli d'acte plus facile. Les difficultés toujours plus grandes, les échecs toujours plus lourds sont venus après. Il soupira profondément. Dans son souffle, je pouvais entendre résonner tant de peines que les larmes montèrent aux yeux. Malgré son affliction, il ordonna la charge. Lancelot s'était préparé à notre attaque et avait rassemblé lui aussi une forte armée. Tout comme le roi, il se trouvait en première ligne. Ils ne pouvaient que s'affronter lors de la mêlée. Du haut de leur destrier, ils dominaient la troupe et leurs frappes formidables perçaient au-dessus des clameurs du combat. Pour finir, le chevalier blanc asséna un tel coup que le bouclier d'Arthur se fendit et qu'il tomba de sa monture. Horrifié, je ne doutais pas de la fin toute proche de mon seigneur. Sans profiter de son avantage, Lancelot tourna bride et fit sonner la retraite. Il avait épargné son ami bafoué. Je me précipitais sur le champ de bataille pour aider mon maître à se relever. Il rageait de n'avoir vaincu et plus encore de n'avoir péri. Il concevait la clémence de son adversaire comme une humiliation supplémentaire. De retour au campement, je pansais ses blessures tandis qu'il ruminait sa défaite. Devait-il renouveler l'assaut le lendemain ou s'estimer perdant et lever le camp ? Mon travail achevé, sa colère était donc tombée. Il s'étendit un moment sans trouver le sommeil. Je restais silencieux dans un coin de la tente. Comme il demeurait allongé, les yeux grands ouverts et le visage empreint d'une grande lassitude, un messager demanda audience. J'allais les conduire, mais Arthur se redressa pour l'autoriser à entrer. Après l'amer constat de l'échec de la quête du Graal, après le calamiteux combat contre Lancelot, le sort s'acharnait. Mordred, qu'Arthur avait en confiance nommé régent, venait de se proclamer roi de Bretagne. Cette ultime trahison l'affligea plus encore. Si on m'avait rapporté ce que je vis alors, je ne l'aurais pas cru. Pourtant, je peux l'assurer, à cet instant, le seigneur Arthur posa un genou à terre, le dos voûté, les épaules convulsées de sanglots, il pleura. Le spectacle de ce grand roi accablé de tant de douleurs me pétrifiait. Les larmes roulaient de ses yeux pour perler dans sa barbe. Cet épisode insoutenable dura jusqu'à la tombée du jour. Puis, sans aucun signe annonciateur, il se redressa. Sa décision était arrêtée. Nous allions lever le siège et partir au devant des troupes de Mordred, l'usurpateur. La bataille de Camlann est de mémoire d'homme la plus effroyable qui jamais souilla le sol de Bretagne. Tant de sang y fut versé qu'à jamais la terre y prit une teinte pourpre. La détermination du roi, après l'avoir vu aussi défait de tristesse, ne cessait de m'étonner. Il avait recouvré toute sa combativité malgré la faiblesse de son armée durement amoindrie après le combat contre Lancelot. Parvenus dans la vallée de Camlann, les troupes de Mordred s'alignaient sans discontinuer sur toute la longueur de la crête opposée. Pire, à l'exception des seigneurs Gauvain et Queux, tous les grands chevaliers de la table ronde faisaient cruellement défaut. Les plus prestigieux avaient trépassé en Orient, et le plus brave demeurait en son château de la Joyeuse Garde. Malgré ses désavantages, Arthur ne renonça pas. Il donna l'assaut, lui-même, et abattit ce jour plus d'hommes que tout autre. Il ne recula jamais, tandis que Mordred restait derrière le couvert de ses soldats. Le traître méprisable s'était fait confectionner une armure d'or dont le haume dessinait un soleil. Il paradait à l'arrière et se réjouit d'un rire enfantin comme Queux tomba sous les flèches. Il s'amusa du spectacle quand Gauvain succomba sous le nombre. Alors le champ de bataille comptait plus de cadavres que de combattants. Seul un roi désespéré et un jeune fol dépourvu d'âme pouvaient perpétrer un tel carnage. Au crépuscule, les deux armées s'étaient anéanties l'une l'autre. Arthur Pendragon demeurait debout. Il acheva lui-même le dernier survivant, le porte-bannière adverse, un garçon d'un âge semblable au mien. Méritait-il de finir ses jours sur un champ de bataille pour avoir brandi les couleurs ennemies ? L'absence d'indulgence de monseigneur qui ne pouvait-il épargner ce pauvre enfant me terrorisa. Lui, roi de Clémence, perdait toute lucidité tandis que la haine l'aveuglait. Il s'élança vers son neveu, Excalibur, pointé vers le ciel. Mordred, élevé avec lenteur et patience dans l'exécration de son oncle, jubilait de pouvoir en terminer. Lui n'avait porté un seul coup, frais comme un homme épuisé. Lui était fort et jeune comme contre un homme mûr. Il ne doutait pas de sa supériorité, de sa lance, il pourfendit Arthur. Un cri s'étrangla dans ma gorge quand je vis la pointe pénétrer dans la poitrine pour ressortir par le dos et percer jusqu'à la plaque de l'armure. Le roi n'avait pas encore trépassé avec une détermination que seul le plus ardent courroux peut conférer, faisant passer toute la hampe ennemie par son corps pour se mettre à porter, hoquetant des râles de douleur à chaque mouvement, il s'avança. Alors, de son épée, il fracassa le soleil, le sang se mêla à l'or et l'usurpateur s'effondra. Je m'élançai jusqu'à mon être, agenouillé, la lance le transperçait de part en part, je dus la retirer, ce qui hâta encore le flot de vie à s'épancher par la plaie. Je l'étendis comme je pus et le décoiffai de son casque, des larmes rouges s'accrochaient à sa barbe, il me tendit Excalibur et me souffla avec peine. « Giroflée, prends mon épée, descends en contrebas de la vallée de Camlann et jette-la dans l'onde. » Je protestais, mais il n'avait que faire de mes objections. D'un geste là, il me chassa. Je dus traverser le champ de bataille pour rejoindre le lac. Une fois sur le rivage, je ne pus me résoudre. Excalibur désigne le roi de Bretagne. Qu'adviendrait-il de nous si elle disparaissait au fond des eaux? Je décidai de la camoufler et retournai auprès de mon seigneur. « Giroflée, as-tu obéi ? » demanda-t-il dans un rictus fatigué. « Qu'as-tu vu ? Excalibur a coulé comme l'aurait fait toute épée, assurai-je. « Ne mens pas. J'ordonne, tu obéis. » Je ne savais comment il avait deviné mon subterfuge, je me résignais non sans désespoir à retourner lancer l'épée magique dans le lac. Alors une main de jeune fille jaillit des eaux, blanche et fine, et saisit le pommeau d'Excalibur. Elle demeura un instant suspendue au-dessus de la surface, puis s'enfonça dans les profondeurs avec lenteur. Je remontai le champ de bataille pour rapporter ce prodige au roi. La vie avait déjà quitté son corps. Agenouillé, je m'effondrais. Dans ma stupeur, je ne réagis pas quand une nef décorée de fleurs et conduite par trois femmes aborda le rivage. Comme dans un songe, elles s'approchèrent et soulevèrent sans effort la dépouille d'Arthur pour le porter jusqu'à leur embarcation. Je suis Viviane, la dame du lac, me révéla la plus belle et la plus effrayante des trois. Nous menons Pendragon jusqu'en Avalon, le pays des morts. Hébété, je regardais sans comprendre cet étrange cortège s'évanouir dans la brume crépusculaire. Ainsi prit fin le règne d'Arthur. Ma tâche fut d'annoncer la triste nouvelle de par le royaume. Quand mes pas me portèrent jusqu'au château de la Joyeuse Garde, j'informai Guenièvre et Lancelot. La première renonça à demeurer auprès de son amant et se retira dans un couvent. Le second abandonna son titre de chevalier pour se faire ermite en la forêt de Brocéliande. J'assistai à son départ. Après avoir enterré son épée et rendu sa liberté à son cheval, il prit la route, les pieds nus, une tunique pour tout vêtement. Par la suite, le royaume de Bretagne succomba aux guerres entre clans et aux invasions des barbares venus du Levant. Jamais plus la chevalerie ne porta en elle le même idéal de bravoure, d'honneur et de courtoisie. Je devins le plus proche ami du seigneur Bohort, il vécut fort vieux. Il aurait pu se prévaloir, si son tempérament ne l'avoir contraint à la modestie, d'être le dernier membre de la table ronde encore de ce monde. Quand nous évoquions ensemble la grandeur du règne du bon roi Arthur, souvent, il livrait ce constat amer avec un triste sourire. Alors le monde était vaste et les temps aventureux.
Thank you.
ainsi s'achèvent les aventures de la table ronde d'Arthur, les contes et légendes merveilleuses. Je vous souhaite une bonne et agréable fin de semaine et vous retrouvez bien la semaine prochaine pour d'autres histoires, car ce n'est pas terminé, bien évidemment. Allez, ciao, bye bye, c'était Doé qui vous racontait toujours et encore des histoires.